Interview.
107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Pierre-Olivier, salut à toi.
Bonjour.
On est ensemble pour se faire un petit rappel, et je dis un rappel parce qu'on avait déjà réalisé en ta compagnie et avec Ludovic et également,
Julien.
Si je me rappelle bien, Julien, voilà c'est ça, pardon Julien, une émission où on avait présenté un petit peu, on s'était posé la question de qu'est-ce qu'étaient les chemtrails, à savoir l'épandage aérien, ces espèces de traînées que l'on voit derrière les avions. On avait appelé ça un ciel légèrement voilé, on avait commencé à se poser des questions. Et aujourd'hui, tu avais envie de revenir pour nous parler un petit peu de la suite, déjà du fait que ben, vous n'avez pas arrêté vos recherches là-dedans, et en tout cas, certainement pas toi. Et puis, il y a aussi une association. Alors, on va surtout donner beaucoup d'informations, tes dernières recherches en la matière. Est-ce que tu voudrais d'abord ben, nous parler de cette association dans laquelle tu vas participer, que vous allez monter là pour parler de ça?
Oui, alors moi, je peux en parler un petit peu. C'est suite à la marche mondiale donc, qui s'est déroulée le 25 janvier dernier sur Montélimar et un peu partout dans le monde. Donc, ça a pu permettre en fait, à différentes personnes un petit peu touchées par ces phénomènes d'épandage aérien de se rencontrer. Et aussi de s'organiser un petit peu pour faire un petit peu d'information sur ce sujet qui est complètement en France mis sous silence. On en entend très très peu parler. Ça commence doucement à sortir dans l'information. Il y a eu des choses dans Télématin, il y a eu des choses dans Var Matin, il y a eu des choses aussi dans le Dauphiné Libéré. Donc petit à petit, on en parle de plus en plus en France. À savoir que sur le continent américain, ça fait déjà 10-15 ans que des associations se battent pour plus de transparence par rapport à tous ces produits épandus.
Ça pose une question principale, c'est qu'est-ce qui est épandu, hein ? Donc, est-ce qu'il y a épandage déjà et qu'est-ce qui est épandu en France pour l'instant non, je vais poser autrement. Est-ce qu'aux États-Unis depuis 15 ans, est-ce qu'au moins on répond à cette question ?
Donc, il y a eu des réponses de fait. Il y a eu des réponses aussi du gouvernement allemand en 2004 pour l'utilisation du barium, justement par l'armée, pour augmenter le transport des ondes, du coup, pour l'armée. Donc, il y a des applications militaires qui nécessitent, à une certaine couche de l'atmosphère, de mettre des particules métalliques ou conductrices pour faire passer des informations. Donc ça c'est
dans la transmission de données radio, par exemple.
Voilà, radio ou localisation de sous-marins nucléaires en basse profondeur, des choses comme ça. Donc ça, c'est des applications souvent... Ça, c'est plus militaire. À savoir que dernièrement, nous avons eu des informations justement de l'armée, parce qu'une autre association, donc... l'Axepica, avec qui j'étais en lien au début, où je suis toujours en lien d'ailleurs, une association qui suit un petit peu cette actualité depuis quelques temps déjà, depuis presque 10 ans, dénonce un petit peu aussi les épandages depuis longtemps, et l'armée qui, l'Axepica pensait que c'était que l'armée qui épandait, donc l'armée elle nous a récemment informé qu'ils nous ouvraient leurs portes pour aller voir justement qu'ils n'épandaient rien dans les airs. Donc après, nous, ce qu'on pense, c'est que ces matières sont épandues par le biais de l'aviation civile. Donc toutes ces nouvelles compagnies florissantes qu'on a pu voir naître depuis une dizaine d'années, donc ça peut être toutes ces compagnies. Alors j'ai cité EasyJet, je vais citer Air Berlin. Après, il y a aussi des grosses sociétés de cargo, Cargolux. Il y a beaucoup de compagnies qui, nous pensons, épandent par le biais du carburant. On ne sait pas vraiment, en fait, qui pourraient être justement... Vu actuellement les problèmes géopolitiques que connaît le monde, tout le bassin méditerranéen et l'Ukraine actuellement, c'est vrai que l'OTAN a tout intérêt à ce que les informations des ondes passent correctement. J'ai l'impression que depuis, il y a une certaine tension depuis le 11 septembre 2001, on sent vraiment géopolitiquement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça coïncide un petit peu avec ces épandages beaucoup de barium, quoi. Dernièrement, il y a donc un documentaire qui va sortir en juillet qui s'appelle Overcast, donc de Mathias Anke. Eux, ils sont allés carrément en altitude récupérer des échantillons avec des avions pour voir quels produits étaient épandus. Donc, c'est toujours en grosse quantité l'aluminium et le barium qui ressortent. Donc, le barium, c'est vraiment un produit qui va être utilisé, voilà, pour la transmission d'ondes. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bon, qui assèche l'atmosphère et qui retombe aussi. Donc on s'aperçoit aussi de ces retombées dans beaucoup d'endroits dans le monde et des explosions des taux de barium et d'aluminium sur beaucoup encore d'endroits, parcs naturels, des choses où il ne devrait pas avoir ce type de produits. Voilà. Donc les épandages, c'est toujours pareil, c'est très complexe. Moi, je m'y suis un petit peu attelé depuis la dernière émission qu'on avait fait le 7 novembre, le jour où d'ailleurs le Dauphiné libéré avait titré ces mystérieux filaments qui tombent du ciel, qui ne sont pas des toiles d'araignée. Hein. Maintenant, c'est bon, parce qu'il en tombe, moi, d'après mes observations, il en tombe tout le temps dès qu'il fait beau. À une certaine température, c'est souvent vers 13-14 heures que ça commence un petit peu à se mettre en route. Donc ces grands filaments qui tombent du ciel, on les voit vraiment très bien à contre-jour, dès qu'il fait beau, systématiquement. À Die, à Minglon, dans la Drôme, donc maintenant à Lyon, il y a eu des grosses chutes la semaine dernière.
En Savoie, il n'y a pas très longtemps.
En Savoie, ah, voilà. Donc,
Oui,
moi,
je
voilà,
rappelle ça.
donc il y a énormément de ces chutes, de ces filaments. Donc on rappelle voilà, que c'est des phtalates, c'est des perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout pour la nature, pour l'homme, pour les mammifères, pour toute forme de vie, c'est pas très bon.
Donc, on sort quand même là du barium et de l'aluminium, là.
Ah, c'est autre chose là, oui. Oui, bah oui, il y a plein de produits qui sont pendus là. Donc là, tout à l'heure, je parlais du barium, de l'aluminium. Donc c'est voilà.
Ces filaments, si
Alors,
on sait à peu près ce que c'est,
on
qu'est-ce que
sait ce
c'est?
que c'est, pas vraiment. On sait que c'est des perturbateurs endocriniens, on sait que c'est des phtalates. Donc ça et ça a été analysé. Donc par un laboratoire, donc plusieurs fois, le laboratoire Analytica. Donc ça, c'est un laboratoire indépendant qui est reconnu par l'ADEME, donc un organisme de certification. Donc il a un spectromètre, le monsieur qui s'occupe de tout ça, il a fait les analyses en bonne et due forme, il a fait deux fois les analyses de ces échantillons. Il y a aussi maintenant Agnès Courty du CNRS qui travaille dessus et qui, pareil, qui vont commencer à alerter un petit peu peut-être les associations de défense de l'environnement ou je ne sais quoi, parce que on s'aperçoit que c'est des choses qui sont pas vraiment pas bien pour nous tous. Et ils tombent en grande quantité tous les jours depuis maintenant. Moi, j'ai eu des observations sur Minglon, des photos de plus de 3 ans.
Mais comment se positionne, par exemple, là tu cites le CNRS, pour moi ça fait partie quand même d'un des plus grands centres de recherche au monde, nouvelles technologies, dans de la recherche appliquée, dans la physique, dans la chimie, etc. etc. Comment un organisme comme ça peut tout d'un coup dire, ah bah oui, bah, on va vous faire vos analyses, vous semblez intéressé par ce qui tombe, mais enfin ils peuvent pas ne pas savoir, c'est pas possible. Ça me sidère en fait cette histoire.
Moi, depuis que je me suis lancé sur le sujet, donc ça me prend énormément de temps. Je travaille pas actuellement professionnellement. J'ai pas de salaire.
Fixe.
J'ai de fixe. Voilà,
Ouais.
je travaille pour actuellement pour ça en fait, pour informer les gens. J'ai rien à y gagner là-dedans. Je suis pas du genre militant. C'est juste que c'est quelque chose qui m'a touché énormément quand j'ai vu tous ces filaments tomber dans des régions
Dans
comme le
ton jardin.
Diois, dans mon jardin, sur mes framboisiers que mes enfants ramassent et mangent. On sait pertinemment que c'est en train de tout tuer, même dans des régions retirées comme celles dans lesquelles on habite. On est même dépendant maintenant des épandages qu'ils font, parce qu'on s'aperçoit aussi de plus en plus que toutes ces particules, quand il y a des basses pressions, donc quand ça retombe un peu au sol, ben, ça génère énormément de gènes respiratoires. Beaucoup de personnes, il y a eu énormément d'alertes, on a bien pu voir cette année, hein, entre la semaine du 10 au 16 mars, c'était catastrophique sur la
L'hiver
région
a
parisienne.
été très violent aussi,
Voilà.
hein.
De toute façon, il faut savoir qu'il y a, je crois, maintenant, une personne sur 8 sur la planète qui meurt de maladies liées à l'atmosphère. Donc c'est énorme. L'atmosphère, même ici en Rhône-Alpes, là, c'est actuellement, même la semaine dernière, c'était assez catastrophique en termes d'ozone. Il y a énormément un taux d'ozone assez anormal aussi. On ne le voit pas, on ne le sent pas. On peut le sentir parfois. Certaines journées, moi, j'ai l'impression, voilà, de ne pas pouvoir respirer. Quand il y a ces basses pressions, c'est assez impressionnant. Donc moi, j'ai vraiment voilà, envie d'interpeller. Le but de l'association, c'est un petit peu ça. Nous, on a appelé l'association Le ciel nous tombe sur la tête. Donc c'est une association d'observation, d'information et d'action concernant la modification chimique de l'atmosphère par épandage aérien de produits chimiques, de métaux lourds, de métaux et radioactifs, pardon. Après, on ne connaît pas tout, hein, parce que personne n'en parle. Personne ne. Du moins, en France, il y a très très peu de personnes qui en parlent. Il y a des personnes, voilà, plus aux États-Unis, là où ça a commencé. Donc, c'est les premiers tests, hein, de ces grosses séries d'épandages, ça reste le Canada. Donc, on s'aperçoit qu'il y a aussi énormément de maladies liées à tous ces épandages qui ont éclaté complètement dans ces parties du monde et qui arrivent maintenant en Europe. Donc, on commence doucement à voir un petit peu, à entendre parler de la maladie de Morgelon. doucement, donc des fibres qui sortent, qui ne sont pas assimilables par le corps, des fibres qui sont d'origine
nanotechnologique,
on ne sait pas, c'est assez particulier et qui entre par voie aérienne, on respire des microparticules très fines, hein, de toute façon, qui rentrent dans nos poumons, qui passent les barrières sanguines et qui vont se promener dans tout l'organisme jusqu'à se déposer. Parfois, ça sera sur l'hypothalamus, ça peut être sur une connexion synaptique à un autre endroit, ça peut être l'aluminium se dépose un peu partout et peut verrouiller. On voit une explosion de toutes ces maladies neurodégénératives parce qu'on trouve de l'aluminium justement de partout, que ça soit. Donc, il n'y a pas que les avions, il y a aussi l'alimentaire, il y a aussi les cosmétiques. Donc,
la pollution, tout simplement, la pollution, d'un certain nombre de véhicules classiques.
Voilà, les véhicules diesel, les c'est une catastrophe aussi. Donc ça, on parle pas de ça aussi avec toutes les pollutions atmosphériques actuelles.
Alors justement, on connaît l'activité polluante de l'homme, on la dénonce assez régulièrement, plein d'associations le font et le font très très bien. Pierre-Olivier, t'as pas particulièrement une attitude complotiste, enfin d'essayer d'aller chercher s'il y a un complot, s'il y a quelque chose qui se crée, je trouve en tout cas dans ton approche. Tu es en train de rechercher, de poser des questions. Est-ce qu'on est alarmiste, à juste titre, en disant, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez étrange qui se passe? Ou alors simplement, est-ce qu'on est encore dans cette question? Répondez-nous pour voir si on va dans la bonne direction. Ou alors, si vous ne nous répondez pas, c'est peut-être que déjà, on est en train d'appuyer sur quelque chose qui dérange.
Moi, ça va faire quelques temps que je m'intéresse au sujet et que je m'intéresse aussi, du coup, au climat. Parce que c'est un peu lié. Donc, ça fait quelques temps, voilà, dans les années 90, on a créé une commission d'experts intergouvernementale pour l'étude du climat et justement les changements climatiques. Le dernier volet d'un gros, gros rapport, voilà, vient d'être bouclé par le GIEC qui est complètement alarmiste. C'est complètement alarmiste. Voilà,
Le rapport du GIEC, on en avait parlé déjà, il me semble, dans la dernière émission.
On en avait déjà
parlé. Là, il y a un nouveau rapport qui sort, c'est ça?
C'est ça. Donc, il y a un nouveau rapport qui sort. Donc là, c'est vraiment... Voilà, par rapport à l'origine anthropique justement de ce réchauffement, donc ça y est, c'est vraiment la faute de l'homme. Hein. Il le prouve par A plus B, hein. c'est nous les méchants, donc avec nos véhicules, mais bon, on nous donne rien.
Pas de vraie explication.
Pas de vraie explication, ouais. Donc si, des vraies explications, ils en trouvent plein, ils ont plein de super scientifiques, mais bon, il y a plein d'autres scientifiques qui ne peuvent pas parler, ou qui voient leur rapport verrouillé, ou qui... Donc là, C'est le prochain combat. Faire passer une taxe, on en avait déjà parlé aussi, une taxe mondiale sur le carbone, ça peut être aussi une façon d'unir les hommes autour d'un projet. On n'a plus de guerre, on n'a plus... Donc le complot, tout le monde m'en parle. Le complot, il est là, c'est la bêtise humaine. La bêtise humaine, il est présent parce qu'ils font vraiment n'importe quoi et ils ne préviennent pas les gens. Nous, on demande qu'est-ce que vous faites, et on veut pas que vous nous défendiez par le biais de l'OTAN en injectant des produits de merde dans l'atmosphère. C'est pas une solution. Vous n'allez pas nous sauver des terroristes avec ces produits. Vous nous êtes en train de nous tuer doucement avec ces produits qui retombent au sol. Vous tuez des populations. C'est dangereux, tous ces produits qui sont injectés en l'air, c'est très dangereux. La Suède vient de porter plainte contre le gouvernement. Il y a 4000 plaintes qui ont été déposées
pour non-réponse, hein.
Voilà, donc la Suède, donc le 1er avril 2014, et c'est pas une blague, donc 4000 accusations ont été portées donc contre le gouvernement suédois et trois de ses agences, aussi au chancelier suédois de la justice, pour violation généralisée et systématique du principe de liberté d'information du public. Parce que le public s'inquiète sur ces épandages aériens. Et il le voit, tout le monde le voit. Sauf plein de gens qui croient encore que c'est des contrails. Donc les contrails, c'est des traînées de condensation qui peuvent être normales à une certaine altitude, avec des conditions atmosphériques, avec certaines données d'hygrométrie, avec des températures données. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est des produits qui sont injectés. Ça n'a pas à être là. On a des ciels voilés toute la journée. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il faut se faire à ce truc-là. Maintenant, donc, la Suède a porté plainte. Nous, il y a eu des questions qui ont été posées aussi au gouvernement par le député des Hautes-Alpes, Joël Giraud.
Ça avait tourné un petit peu, hein, quand même.
Oui, mais il n'y a toujours pas de réponse. Le gouvernement, il devait répondre il y a déjà un mois et demi. Il n'a toujours pas répondu. Donc, pareil, là, il entort le gouvernement. Et on lui repose la question. Nous, voilà... En tant qu'association, on vous lui redemande. Vous en êtes où avec ça, quoi. C'est répondait simplement aux questions que les citoyens français ont posées à Joël Giraud, parce que tout le monde s'inquiète de ses épandages, des retombées de ses filaments, de toutes ces matières qui retombent.
Toi, tes recherches, tu les fais comment, principalement sur Internet?
Donc moi, je les fais principalement sur Internet. Après, j'ai beaucoup de documents aussi PDF que j'ai lus entre-temps, donc des gros dossiers, que ce soit du GIEC, des gros dossiers de l'armée, des dossiers qu'on peut trouver sur Internet. Bon, après, c'est des trucs qu'il faut se taper. Hein.
C'est pas, bien épais, ouais.
C'est pas des plus intéressants. Des fois, ça peut être intéressant, mais c'est... Voilà, c'est... Et après, il y a déjà une communauté qui est présente. On est en lien avec des personnes aussi aux États-Unis, au Canada, donc qui seront déjà dans ce combat-là depuis de nombreuses années. Par exemple, sur des groupes comme Google+, ou Facebook, on se donne un peu des informations comme ça via des réseaux sociaux.
Et puis, il y a un site internet que je voudrais que tu cites, que tu suis souvent, là où on voit les avions se balader dans le ciel avec des trajectoires étonnantes. Oui, on se dit, mais tiens, il décolle de là, il devrait aller là, mais non, en fait, il fait demi-tour et revient. Et
donc, ce logiciel, ça s'appelle FlyRadar. Il y en a un autre, je ne sais plus son nom, donc FlyRadar 24. Donc, c'est juste un petit logiciel qui a les balises en fait, de GPS des avions commerciaux, la plupart des avions commerciaux. Donc, on peut voir, donc c'est comme une carte,
du monde,
et on peut après cliquer sur tel avion pour voir d'où il vient, où est-ce qu'il va, son altitude. Etc. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a des avions qui ont des drôles de comportements. Moi, j'en ai suivi plusieurs. On a des dossiers énormes.
On a des... Au bout d'un moment, tu peux.
Sur toutes les compagnies aériennes, on a plein de dossiers. Hein. Quand on va vouloir en parler un petit peu plus, voilà, on a déjà de la matière. Et là, c'est vrai que moi, j'ai des trucs d'Air France, des vols, par exemple, qui partent d'Orly, qui vont sur la Méditerranée, qui reviennent, qui font à peu près 3 tours au même endroit vers Crai. Donc ça, c'était un gros porteur et qui va se reposer ensuite 2h30 plus tard sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Voilà, donc il ne transporte a priori personne. Bah, il n'a pas fait d'autres arrêts.
Non, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt en vol. Ils n'y arrivent toujours pas.
Alors moi, ce qui m'interroge, c'est que tu vois, ce logiciel est là, tout le monde peut le télécharger et a priori, ça va amuser les gens de voir un petit peu les avions se promener dans le ciel. Mais enfin, en fait, il y a presque tous les éléments sont là. On commence à faire des analyses au sol, on fait des analyses en l'air, on publie, on écrit, on a même 10 ans d'expérience, tu le disais, outre-Atlantique. Et puis il y a ce type de logiciel, mais enfin, qu'est-ce qu'on attend pour démentir ou enfin pour dire quelque chose quoi.
C'est super compliqué parce que moi je vois, j'en parle. J'ai envoyé un courrier tout récemment à une soixantaine de producteurs là, dans le Diois, ou là où on habite, où j'interpelle un peu par rapport aux pollutions atmosphériques. Et justement, c'est des personnes qui devraient être sensibles justement à ces retombées de filaments et même qui auraient dû voir et qui auraient dû s'interpeller, je pense, ou qui devraient s'interpeller. Parce que tous ces filaments que vous voyez, ce n'est pas des araignées, quoi. C'est autre chose. C'est des phtalates, c'est en train de tuer les sols, c'est en train de tout tuer, quoi. Donc il va falloir vraiment se secouer un petit peu, tout le monde et tous autant qu'on est. Je ne comprends pas encore que les gens refusent de voir ce truc. C'est sûr que c'est encore une info qui n'est pas cool. Moi, ça ne m'amuse pas hein, de faire ce que je fais. Je me retrouve très souvent confronté à des personnes qui me d'un revers de main me disent voilà le complot des populations. Bah, en attendant, ainsi du moins, même s'ils ne le veulent pas, même si ce n'est pas pour tuer la population mondiale, ça le fait parce que ces produits qui sont épandus, voilà, c'est pas bon pour aucun des hommes, quel qu'il soit. Que ce soit le barium, que ce soit l'aluminium, que ce soit le strontium, que ce soit ces phtalates qui retombent, ces filaments, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Et c'est pas bon pour nous. Et même simplement par rapport à tout maintenant, ces couverts nuageux, et on le sait, la lumière arrive au sol. Il y a 30% de lumière en moins, donc les plantes, elles ne font pas la photosynthèse qu'elles devraient. Donc c'est très compliqué, c'est très très compliqué. C'est un gros sac de nœuds, cette histoire, parce que derrière, il y a le GIEC qui harcèle, et puis il y a Nicolas Hulot qui harcèle aussi, qui va continuer de harceler. Il y a Al Gore qui le fait depuis des années sur les vilains pollueurs, quoi. Mais oh, proposez-nous autre chose, ok. Il y a le moteur Pantone qui existe, qui est très bon pour justement et l'ionisation de l'atmosphère. Proposez-nous autre chose, les gouvernements. Arrêtons. Mais vu qu'on n'est pas prêt de sortir de cette ère pétrole et qu'on est encore complètement là-dessus, les mecs, ils veulent continuer jusqu'au bout. Donc pour continuer jusqu'au bout, de continuer à consommer du pétrole, on va être obligé d'arriver à de la géo-ingénierie massive, comme ils le font actuellement, mais sauf qu'ils ne nous le disent pas. Comme l'a dit le GIEC il y a quelques mois, en octobre. Voilà. En gros, ils avaient dit « Nous n'arrêterons pas les épandages que nous n'avons jamais faits. » Donc, c'était un peu l'info qu'il fallait lire. On sait, voilà, qu'ils font ça pour nous sauver, parce que, il faut continuer
C'est-à-dire
à rouler en
qu'avec
voiture.
voilà, avec notre système de consommation polluante à l'heure actuelle, si on passe pas à des systèmes de géo-ingénierie, de gestion
Massive, ouais.
massive, de gestion de
De
l'atmosphère,
gestion du carbone, parce que ça devient
et
assez
du...
catastrophique,
Ouais.
ouais. Quand même, c'est une
On
réalité,
va...
ça, ouais.
Donc, mais en
Mais
fait,
il y
à
a...
la limite, tu t'attaques même pas forcément à des épandages d'avions. C'est toute la pollution en elle-même qu'il faut. Enfin, c'est notre système.
Moi, je pense que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. On a un peu cette impression-là que pour cacher un petit peu toutes les autres applications que peuvent faire les avions et ces épandages-là, on va mettre ça, voilà. Il va falloir injecter du soufre en grande quantité dans l'atmosphère pour réduire, voilà, le CO2. Mais je pense que c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Et ce n'est pas une solution parce que même dans certaines applications de géo-ingénierie, on réchauffe l'atmosphère avec ces produits. Localement, en fait, on le voit hein, quand il y a beaucoup de voiles nuageux suite à des épandages, on voit qu'il fait beaucoup plus chaud qu'il ne devrait en dessous. On gagne presque 3-4 degrés. Ça fait effet loupe. Dernièrement, il y a eu un petit documentaire sur France 3 où il y a un mec de Météo France qui l'explique clairement, quoi, qui dit voilà, que localement, ces épandages, oui, ils réchauffent. On avait aussi parlé de HAARP et de toutes les applications de ionisation justement de l'atmosphère par de grosses antennes pour envoyer des informations, pour arriver à... Alors, on ne sait pas encore aussi qu'est-ce que c'est exactement que ce truc-là, mais ça réchauffe aussi l'atmosphère. Donc, auquel okay, la planète réchauffe avec le CO2, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de climato-sceptisme en ce moment. Je crois qu'il y a un tiers des Français qui se dit climato-sceptique, qui ne croient pas que que le réchauffement est juste dû
À
à
l'activité humaine.
l'activité humaine. Bah, si, il l'est, hein, parce que y a pas que ça. Je pense pas. On peut pas. On n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de données sur. C'est pas possible d'avoir. Ça fait que 100 ans qu'on a des relevés de température, par exemple. Donc, c'est pas. L'homme, encore une fois, voilà, avec la science, va sauver le monde. Il va faire un problème avec les véhicules diesel et il va en trouver un autre par la chimie en injectant du soufre pour remédier au problème. Mais on
C'est des
marche.
pansements sur les jambes de
C'est
bois,
voilà,
quoi.
c'est des pansements sur les jambes de bois. Et ça a toujours été. Ça, c'est typiquement humain. Et continuons, allez-y. Mais bon, par contre, je pense qu'il va falloir de plus en plus sortir avec des masques à gaz, quoi, au final. Et que, y avait un bouquin justement de Jean-Marie Pelt qui avait été écrit dans les années 90 qui commençait comme ça, où c'était un bouquin un peu de science-fiction. Et le gars rentrait chez lui, l'air était irrespirable. Et en fait, il n'avait pas payé sa facture de retraitement d'air. Et ouais, on y arrive. On va y arriver. On va devoir payer l'air qu'on respire parce que elle va plus être bonne. Donc encore un truc
Donc il y aura des centres où on fabriquera de la bonne oxygène
pour nos
à
dans nos
quelques
maisons
arbres protégés.
climatisées. Ça
Ouais.
sera sympa.
Ouais. Bah, ça fait le scénar de quelques films de science-fiction qu'on connaît, hein,
Ah oui, il y a
avec
eu, il y a eu
des étages bas où les gens ne peuvent pas se payer cette bonne air, donc eux, ils meurent vite, et puis ceux qui habitent dans le haut des buildings. Hein. Ouais, c'est non, mais c'est très joyeux cette histoire. Moi, ce que je voudrais qu'on entende vraiment, c'est que non seulement, voilà, tu n'es pas, pour moi, tu ne fais pas partie des gens qui essaient de chercher forcément le complot international, mais plutôt de se baser sur des faits et que peut-être, comme toi, n'importe qui peut faire un petit peu cette démarche pour se poser cette question.
Exactement.
Est-ce qu'il va falloir qu'on passe par porter plainte aussi de manière
Je
massive?
pense. Oui, on va faire. On va. De toute façon, après, le but de l'association, c'est pour avoir plus de poids, nous. Hein. Donc le ciel nous tombe sur la tête. Donc c'est l'association qui va bientôt être. Donc les statuts vont être déposés en préfecture. Ils l'ont peut-être été, ou ça va être aujourd'hui ou demain. Donc les statuts vont être déposés. On va commencer à lancer des adhésions. Nous sommes le 22. Donc mercredi, donc 23 à 13 h, place de la Comtesse. Donc il y a un rendez-vous justement pour toutes les personnes qui s'interpellent par rapport à ce sujet. Parce que moi, je suis sollicité de toutes parts, vraiment, de personnes. Parce que j'avais fait donc cette émission avec Ludwig et Julien. Ensuite, avec Ludwig, nous avions fait aussi une petite
Sensibilisation.
sensibilisation à Buenas Ondas. Il y avait une quarantaine de personnes hein, facilement qui étaient là et qui interpellaient aussi par toutes ces qui avaient vu ces filaments tomber. Depuis cette date, c'est pour ça que j'ai envoyé des informations par mail à beaucoup de personnes. Et là, donc, il va falloir voilà, on s'organise, on crée cette association pour vraiment informer, continuer d'observer aussi. parce qu'il faut continuer d'observer. On fait des time-lapse encore, on regarde quel avion iPad, on note, on continue de noter, de voir un petit peu tout ce qui se passe dans les cieux. Moi, je suis souvent les yeux en l'air maintenant, comme quand j'étais gamin, parce que j'ai toujours été dans la tête dans les avions, parce que j'ai fait des études voilà, de maintenance aéronautique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a deux V-22 Osprey qui sont passés plusieurs fois. Donc, c'est deux hélicoptères américains qui avaient été faits par Boeing et Bell, qui sont passés dans la vallée donc au-dessus de Die et qui allaient après sur la vallée du Bèze, qui remontait vers Châtillon il y a 2 semaines de ça. Ouais. Donc, c'est des hélicoptères de transport de troupes qui étaient là. Donc, il y avait des grosses manœuvres militaires qui se passent avec plusieurs armées là, en France. Dans le nord de la France. Donc voilà.
Et la guerre froide qu'il y a eu, c'était déjà un peu ça. On a beaucoup épandu. D'ailleurs, énormément d'images qu'on peut trouver sur ces épandages tels qu'ils étaient filmés avant datent en tout cas à partir de la guerre de 40. Ont été très actifs en Asie. Hein, on a énormément épandu Vietnam, Laos, tout ça, là, quand c'était la guerre.
Opération Popeye, ouais, au Vietnam pendant plusieurs mois. Ouais.
et puis quand même, les Russes, les Américains, on pouvait s'envoyer des choses comme ça, c'était plus
dernièrement,
plus
là, il y a eu des tombées en Russie, il y a des chutes de sacs de ciment, en fait, d'un avion qui sont tombés carrément au sol, donc des gros sacs de 50 kilos qui sont venus éclater au sol. Donc, à savoir que les Russes, ils ont des techniques un petit peu particulière, hein. Pour épandre, ils jettent carrément les cartons avec le chlorure de, alors je sais pas quoi. Là, j'ai vu des vidéos où le carton se désagrège au contact de l'air au bout de 1, 2, 3, 4 secondes, on va dire.
Je me marre, excusez-moi, mais c'est trop voilà. Long. T'envoies le carton tout avec l'emballage.
Voilà. ça, c'est possible de voir ce type de document assez facilement sur tout le matériel qu'ils ont et toutes les vous pouvez aller voir sur un site qui est intéressant voilà qui s'appelle Weather Modification super parce qu'il y a plein de gens qui continuent à ne pas croire que cela existe eux c'est une entreprise américaine qui a eu déjà des super projets un peu partout dans le monde pour justement changer faire pleuvoir au Sénégal avec l'aide de l'armée marocaine. Il y a d'autres, il y a plein de projets partout.
Ben, on peut espérer que toutes ces entreprises vont recevoir un prix Nobel d'ici quelques temps, comme Monsanto l'a eu.
Oui, je pense. Voilà. De toute façon, c'est souvent... en fait, les climatologues, on va dire, il y a 10 ans en arrière, c'était vraiment la risée de tous les scientifiques du monde. Quoi. Et maintenant, ça devient des stars. Quoi. Il y en a plein, là. Il y en a quelques-uns là, qui sortent un petit peu du placard. Là. Oh, et des projets géo-ingénieurs qui débarquent là... qui sont assez terribles et puis qui vont nous faire l'information et qui ont commencé à la faire. Il y a Olivier Bouchet qui a commencé à la faire sur France Télévisions donc qui explique un peu la géo-ingénierie, donc comment réduire le CO2 donc soit en injectant du soufre dans l'atmosphère, soit en l'emprisonnant et en l'enfouissant très profond, ou soit aussi en créant des nuages avec des espèces de bateaux qui se baladeraient sur la mer, des gros nuages d'eau salée qui voilà, pour les nuages blancs, ils appellent ça, pour renvoyer les rayons solaires dans l'atmosphère, pour refroidir la Terre. Il y a plein de trucs qui se passent. C'est assez intéressant. C'est un vaste sujet. Donc,
ouais,
alors,
c'est très vaste, en fait.
C'est très vaste sujet.
En fait, on en est toujours quand même à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour l'instant...
Ça sort dans les médias. Non, ça sort depuis 6 mois. On n'en parle plus. Il y a Varmatin qui a fait une double page. Quand on parle de l'indépendance de la presse, écoutez, alors moi, je me suis aperçu de choses en grattant. Généralement, souvent dans les petits quotidiens régionaux, on a des bonnes infos. Dans les gros trucs mainstream, on oublie quoi. Du moins, c'est.
Pour l'instant, en tout cas, ils peuvent pas en parler.
Actuellement, non, ils en parlent pas. Je sais pas, ils ont pas le droit. Hein. Ouh là là, l'AFP, ils ont dit non, parlez pas. J'ai l'impression. Hein.
Ouais,
c'est impressionnant. Hein. En France, c'est une catastrophe. Ils parlent de géo-ingénierie, ils en parlent un peu, ils parlent du climat, ils parlent de tout ça.
En tout cas, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que cette question se pose. Elle mériterait au moins qu'on y réponde,
en fait,
même par la négative.
C'est ça, c'est pour ça qu'on monte
même
l'assaut.
Même qu'on dise
aussi,
vous trompez complètement, vous hallucinez, mais en tout cas, même ça, c'est pas fait.
Parce que après, à choisir, moi, je vais prendre un petit peu l'exemple du vaccin. C'est le vaccin, on ne sait pas encore quel est le bénéfice de la vaccination. Peut-être que c'est pire de se faire vacciner que de ne pas se faire vacciner. Là, peut-être que c'est pire d'injecter ces produits dans l'atmosphère pour réduire justement la température que de laisser faire, quoi. Et de changer, de nous s'adapter, quoi. Changement, ouais, on va s'adapter. Donc si on va voir sur quel modèle on va partir. C'est normal, la Terre, il y a eu plein de chamboulements. L'homme, il n'est pas là depuis longtemps. Hein. c'est une petite fourmi en plus. Hein.
J'aime bien cette manière que tu as de présenter la chose. Je pense qu'on peut entendre ça dans le discours. Il y a la peur. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer plus tard.
La peur et puis
le désir de vouloir maîtriser. Ouais, avec nos techniques.
Ce que je ressens énormément, en fait, c'est déjà c'est, chez les gens qui m'interpellent, c'est une forme de pas de fatalisme, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est juste l'air qu'on respire. Comment on fait quoi pour se prémunir de ça? Et nous, on vous demande. À la rigueur, moi, je vais parler au gouvernement tout de suite et leur poser la question. Ils vont certainement entendre parce que de toute façon, avec ces recherches, je pense que notre asso elle est déjà sous les RG et compagnie. Hein. Ces types de trucs qui gênent, donc on est suivi, du moins nos mails sont enregistrés, conversations téléphoniques, tout est quanti quoi. C'est des trucs qui gênent et on s'aperçoit que voilà, j'ai eu des bugs sur mon ordi. On s'aperçoit vite quand on gratte dans un sujet qui est un petit peu épineux, que voilà, qu'il y a des choses qui se passent bizarres. Bref. Donc les gens, ils ont vraiment. Ils sont démunis en fait. Et ils se tournent vers moi et moi, je ne sais pas quoi leur répondre. Et donc, moi, je pose la question au gouvernement sur à l'arrière, dites-nous quand vous épandez ou dites-nous quand il ne faut pas sortir. Prévenez-nous quand il y a des basses pressions et que ça tombe à mort parce que ça, vous le savez. Vous le savez que quand ça va tomber, ce n'est pas cool. Et vous savez qu'il y a des gros épisodes. Alors, à moins que vous vouliez vraiment faire du tort, mais non, vous êtes là pour être. Vous êtes là pour la population. Vous avez signé pour, les gars. Sinon, nous, on peut se débrouiller tout seul, hein, je pense. On s'en sortira sans vous. On s'adaptera au changement climatique. S'il fait trop froid, eh ben on mettra des petits pulls. Ou s'il fait trop chaud, eh ben on se découvrira. Mais on va faire avec. On va arrêter de faire n'importe quoi, de faire les apprentis sorciers, parce que là, c'est catastrophique.
Ou on disparaîtra, hein, on peut le dire aussi.
Ouais, hein. Après, c'est pas plus mal pour la planète, quelque part. Franchement, moi, à la base, je viens de l'accompagnement en montagne. Quand les personnes me parlent, quand je parle de la martre ou de... et qui me disent c'est un nuisible, je leur dis non, c'est pas un nuisible. Le seul nuisible sur la planète, c'est l'homme, là, actuellement. C'est la seule espèce qui est encore une fois incapable de gérer dans le milieu dans lequel elle vit, de gérer sa population et de gérer ses matières premières. Quoi. C'est catastrophique, c'est impressionnant. Et après, on se dit des êtres évolués. Non, je pense pas. Ouais. En forêt, il mieux vaut se comporter comme un animal. Un animal, voilà, il ne fait pas n'importe quoi. Il ne jette pas des objets n'importe où. Il ne fait pas n'importe quoi. Donc, il faut remettez-vous à quatre pattes et puis aller renifler un petit peu là.
L'humus. Mais et c'est là que vous vous rendrez compte d'ailleurs qu'il est peut-être chargé de mystérieux filaments. Pierre-Olivier, on a fait le tour de ce que tu voulais nous annoncer aujourd'hui.
À peu près, ouais. De toute façon, je pense qu'on reviendra faire de nouvelles informations assez périodiquement pour... le suite de cette association. Donc on sera de nouveau après moi dès que l'association est mise en route. On est en train de faire les logos, donc les statuts, des flyers, plein de choses. Donc de la documentation pour les gens qui vont adhérer ou même pour les autres qui veulent aussi donner l'information. Parce que c'est très compliqué l'information là, sur ce sujet. Vite les gens nous parlent du complot. Moi je me suis un petit peu aussi... j'ai aussi envoyé des... J'ai un mail à une amie médecin sur 10. Pareil, je lui ai demandé donc de voir un petit peu s'il y avait qu'elle observe un petit peu les liens justement sur peut-être de cause à effet entre les épandages et des épisodes par exemple médicaux un peu improbables. Donc j'appelle d'autres médecins aussi à m'appeler,
se poser aussi cette question
par rapport à beaucoup de nouveaux mots hein, qu'on va trouver aussi, donc beaucoup de démangeaisons oculaires, démangeaisons de la peau,
problèmes
respiratoires, il y a énormément de choses, fatigue, troubles du sommeil. Il y a déjà beaucoup de médecins aux États-Unis qui ont fait des études là-dessus. Dernièrement, la semaine dernière, vous avez dû entendre aussi, hein, ils ont perdu... 2400 échantillons du SRAS quand même à l'Institut Pasteur de Lyon. Quoi. Pff, moi je veux bien, mais bon les gars, vous faites gaffe, ça craint. Hein.
Perdu.
Ils ont égaré. Non, ils vont les retrouver les gars. Bon. Ah, quand on commence à s'intéresser à ces informations-là, on tombe sur plein de trucs très croustillants et très intéressants. Et évidemment, il y a toujours les chimistes qui sont toujours de la partie. Hein.
Voilà, c'est ce que je disais hein, quand je parlais de la peur, c'était la peur de l'homme en général, cette peur de qu'est-ce qui va se passer demain et la croyance en tout cas de pouvoir tout maîtriser.
Et cette peur du changement aussi. Cette peur du changement, donc d'où la volonté de toujours tout vouloir contrôler quoi.
Par la technique.
Par la technique, la technologie. Donc là, ça va être contrôle des gens, de l'information. On part quand même sur un truc. Alors, de la santé. Voilà, je, on va dire oh là là, ça y est, part sur le complot. Non, mais si on regarde autour de nous, excusez-moi, mais voilà, il y a le CSA qui gratte un petit peu sur Internet et la liberté sur Internet, sur les informations, justement. Il y a plein de sites qui sont prêts à dégager. Quand même, il y a des libertés qui sont moindres dans beaucoup de domaines, hein, en termes d'information, de plein de choses. Donc, il faut rester vigilant, ouvrir les yeux, élever les yeux au ciel et essayer vraiment, voilà, de prendre l'information, de faire confiance aussi à ces, je pense, en ces associations qui font un travail autant. L'Axépica, nous, le ciel nous tombe sur la tête, le ciel voilé, il y a d'autres associations qui existent déjà, qui font un travail là-dessus. Donc, moi, je les cite aussi, on va travailler ensemble. J'ai pas envie. Nous, il n'y avait rien dans la région Rhône-Alpes, donc c'est aussi pour ça qu'on a monté cette association. Mais on va essayer de. Voilà, l'union fait la force. Il va falloir que nous tous, eh ben, on s'y mette, parce que. Et vraiment faire quelque chose. Donc il se peut aussi que moi je suis donc pas mal en lien avec le producteur du film Overcast, donc qu'il se passe quelque chose dans le Diois, donc à juillet, entre juillet et septembre, je sais pas, par rapport à la diffusion de ce film, donc sur cette équipe de Suisse qui est allée carrément en altitude récupérer des échantillons, qui boucle
donc
leur
une
film
invitation
actuellement.
De Mathias Anke.
Donc moi voilà, je les ai invités donc pour faire une projection dans le Diois, donc je suis en train d'organiser doucement ça. Donc pareil, je vous tiendrai informé par rapport à ce documentaire qui risque un petit peu aussi de faire un petit peu de bruit dans les médias, j'espère.
Pierre-Olivier, on le rappelle, personne lambda, tu es quelqu'un comme ça qui se pose des questions. Et j'espère que tu fais poser des questions, en tout cas, aux quelques personnes qui auront pu écouter cette interview. Et il faut continuer à passer cette information. Je te remercie de venir le faire pour la deuxième fois à la radio et donc pour plus
Merci
tard,
à vous, hein.
bientôt revenir encore.
Ah bah oui, on va revenir.
Voilà. Avec d'autres gens, avec qui tu
avec
veux
d'autres
d'ailleurs.
personnes, voilà, on va essayer de voir, voilà, on va vous tenir informé de ce qui se passe par rapport à ce sujet-là. Donc il y a
Puis
toujours
trouvez-nous un
un.
scientifique aussi qui se pose des questions, ça serait pas mal,
Alors
ça.
moi j'appelle hein, beaucoup, voilà, j'appelle un petit peu, je fais un appel pour l'association de, voilà, autant des météorologues que des anciens mécaniciens avions, des personnes qui pourraient avoir des informations sur le sujet, qui ont toujours été un petit peu vigilants par rapport à ça.
Bah écoute, moi on va suivre ça,
Je
l'interview
reviendrai voilà
sort et
pour donner
puis
toutes les informations par rapport au contact de l'association,
voilà.
parce que voilà les
Et puis il y
statuts,
aura un site, il y aura
il
tout
y
ce
aura
qu'il
le
faut.
site, voilà, tout est en train d'être mis en place là tout doucement. Donc bah, ça fait un petit moment qu'on est dessus, mais bon on est un petit peu distant avec Yannick donc et Bruno, donc les deux organisateurs de la marche mondiale hein, contre la géo-ingénierie qui se passait à Montélimar.
Yannick qui tient
Donc
un site de
Yannick,
vidéo,
voilà.
hein.
Donc Yannick aussi qui est à l'initiative hein, de l'association avec Bruno. Donc moi je me suis aussi rajouté pour sur l'histoire. Donc Yannick qui a la chaîne sur YouTube The Nowhere to Go, donc une chaîne qui existe depuis 3 ans, qui explique un petit peu tout ce qui se passe en termes de géo-ingénierie. Donc Yannick c'est quelqu'un qui va voir, qui va poser des questions un petit peu,
Et
qui
qui
va aussi
filme.
interpeller les gens et qui fait des super documentaires, des petites vidéos, voilà, pour interpeller aussi les gens, qui va dans la rue faire des petits happenings avec les gens pour leur expliquer ce que c'est que ces filaments, etc., etc. Donc The Nowhere to Go, à savoir que voilà, il m'expliquait qu'il a entre 10 et 15 abonnements par jour depuis quelque
Nouveau,
temps. Donc
ouais.
c'est les gens s'interpellent de plus en plus. Les gens s'interpellent de plus en plus sur ces épandages. Il y a quelque chose, voilà, les gens ouvrent les yeux et lèvent les yeux au ciel. Tant mieux, tant mieux. Il faut rester vigilant parce que on sait pertinemment voilà que nos dirigeants ne sont pas forcément toujours bienveillants. On l'a vu avec l'amiante, on a vu avec le bisphénol A, plein de choses déjà.
Le nucléaire.
De nucléaire. Bon, j'en passe, il y a des stocks et des stocks. Encore un autre. Donc il y en a qui se battent voilà, contre Monsanto avec tous ces OGM. Il y en a qui se battent contre le nucléaire. Nous aussi, on se bat contre Monsanto parce qu'ils sont aussi un peu liés au truc.
J'avais entendu un écologiste dire il y a deux choses que l'homme ne devrait pas pouvoir cautionner puisque c'est des modifications irréversibles, les OGM et le nucléaire, mais peut-être qu'on peut rajouter un troisième bientôt.
Bah, le climat, ouais. Ouais, le climat. D'ailleurs, il y a une convention qui a été signée en 76, hein, je rappelle, qui s'appelle la convention EnMode. C'est une convention, donc hein, tout le monde n'en a rien à foutre.
Oui,
On est bien d'accord.
on cosigne et on est content
Et
d'avoir
l'autre
cosigné.
convention, après, il y a une autre convention Aarhus qui a été faite en 86 aussi. C'est pareil. Alors, la convention EnMode, c'est juste une convention qui. Donc, interdiction d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires et toute autre fin. Mais bon, ça. On sait que c'est du vent. C'est juste une convention. Donc ça sert à rien de se prendre la tête pendant des années à créer des papiers qui sont super chiants à lire pendant des heures, qui servent à rien, les gars. Allez, moi je vais arrêter là parce que c'est là que c'est.
Attention,
On se
complot.
re... Attention au complot. Donc on se retrouve demain à 10, après le marché, pour un pique-nique à 13h, place de la Comtesse, pour parler de tout ça. Et moi je serai là, Pierre-Olivier, c'est moi.
À bientôt, Pierre-Olivier.
À plus.
Interview. Okay, the bird. Interview. L'interview du jour.